Alors, nous avons maintenant Simon Godard, qui est agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Grenoble, qui est l'un des établissements du pôle Rhône-Alpin du Sierra, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il est rattaché à l'UMR, donc l'unité mixte de recherche entre CNRS et université PACTE, laboratoire de sciences sociales, qui est une unité caractérisée par l'interdisciplinarité, où en fait on fait intervenir des disciplines comme géographie, histoire, sciences politiques, sociologie, urbanisme. Tes recherches portent sur l'histoire de l'Europe avec un fort accent mis sur l'étude de l'économie, des structures économiques, des réseaux économiques et des idées économiques. Alors, ta thèse portait sur, en fait, le Conseil d'aide économique mutuelle, qui est un peu l'équivalent du plan Marshall pour le bloc des pays socialistes. Donc, ça engage finalement la réflexion sur un projet d'Europe alternatif à la construction européenne communautaire après 1945, donc en jeu Europe, par le biais, en fait, de l'étude des économies, l'étude des réseaux. Et tes dernières recherches retournent sur les périodes de l'entre-deux-guerres avec la circulation des modèles économiques. Et pour l'heure, tu vas nous parler de penser Berlin sans mur, enjeu historique de la construction d'une mémoire matérielle de la division de l'Allemagne après 1989.
Merci Anne. Je vais m'adresser aussi tout de suite aux étudiantes et aux étudiants. Ne partez pas, on ne va pas parler d'économie. Rassurez-vous, ça va bien se passer parce qu'en général, c'est le truc le plus aride et qui ne vous plaît pas. C'est aussi ce que je pensais hein, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Donc les perspectives d'évolution de vos centres d'intérêt sont, à mon avis, grandes. Je ne pensais pas que je ferais ça un jour et je suis ravi maintenant de faire de l'histoire sociale de l'économie. Je trouve ça assez fascinant. Mais aujourd'hui, on m'a demandé de parler du mur, donc j'ai fait le bon petit soldat. J'ai décidé de parler du mur. Donc je remercie beaucoup l'Université de Lyon 2, le Sierra et en particulier Laurence Guillon et Nejma Moussaoui de m'avoir forcé à me coller à un sujet qui n'était pas le mien parce que le mur, Alors, je pense qu'on est de la même génération et Étienne François a évoqué hier cette question de qu'est-ce qui s'est passé pour les jeunes qui avaient entre 5 et 10 ans au moment de la chute du mur. Donc, moi, j'avais 7 ans, on est dedans. Hein. Bref, donc je vais commencer par vous parler de mon expérience de berlinois régulier, on va dire, mais intermittent, depuis les années 2000 uniquement, depuis 2000 pour la première fois. Et donc, de la chute du mur en 2009, parce que le mur est retombé, c'est ce qu'a dit Elisa Goudin, en 2009. J'y étais, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, ce qui était un vrai enjeu. Et donc, c'est un moment marquant, je pense, dans les célébrations de l'histoire de la chute du mur. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en 1999 pour les 10 ans, devant la porte de Brandebourg, donc au même endroit, il y avait une tente, enfin une grande tente, avec un orchestre symphonique. Et alors, désolé pour les plus jeunes d'entre nous, il y avait Scorpions aussi, Wind of Change. Voilà, donc je vois parmi les étudiants que les étudiantes, bref, nous avons tous vieilli. Donc en 1999, il y avait un orchestre symphonique et Wind of Change, Scorpions, une chanson emblématique de 1990, de la chute du mur, des guitares électriques et des violons. Et là, on était encore dans un moment qui connectait directement les premières commémorations, donc le premier anniversaire des 10 ans, à l'expérience vécue de 1989. On ressortait une chanson qui était emblématique de cette période de la transition, ce qui n'est plus du tout le cas en 2009, où vous avez vraiment une rupture historique et mémorielle et des acteurs différents qui interviennent dans la mémorialisation du mur. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, on a reconstitué le mur avec des dominos. Et l'idée était de faire tomber le mur en faisant chuter ces dominos avec des enfants, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. C'est coupé par la FP, donc vous n'aurez pas la fin. Je vais vous la raconter quand même. Donc, si certaines et certains d'entre vous étaient à Berlin à ce moment-là, vous aurez le souvenir, comme moi, qu'il faisait froid et qu'il pleuvait. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on fasse un long discours entre 18h30 et 23h30. Franchement, ce n'est pas du tout stratégique. Qu'est-ce qu'il faut conclure de cette vidéo ? D'abord, il faut en conclure, je pense, le premier élément important, c'est qu'en 2009, on a eu la volonté de reconstruire le mur. Et là, je vais vous expliquer que ma présentation entre dans un dialogue avec un livre qui a été publié récemment par Nicolas Offenstadt, qui s'appelle « L'histoire d'un pays disparu », dont je vais discuter certaines thèses. Donc, on a voulu matérialiser physiquement la division de Berlin à travers la reconstitution du mur. Ensuite, cette commémoration, elle a eu lieu dans un espace particulier qui est devant la porte de Brandebourg, qui n'est pas le lieu que, à l'époque, l'État fédéral et le Land de Berlin avaient choisi pour être le lieu principal de mémorialisation du mur, puisque c'est la Bernauerstrasse qui a été choisie et pas la porte de Brandebourg. Mais cette porte, c'est un lieu de mémoire important de la guerre froide, et ça vous dit aussi quelque chose sur les échelles auxquelles on pense le mur de Berlin, l'échelle de la ville, de l'Allemagne ou de l'Europe et du monde. Cette guerre froide, elle était importante à commémorer. Vous avez la présence, vous les avez vus, donc d'Hillary Clinton, de Dmitri Medvedev, Klaus Wowereit, Nicolas Sarkozy qui était là aussi. Et à la fin de la chute de ces 1000 dominos, le dernier s'arrête sur un mur en béton véritable, qui est censé, selon Thomas Gottschalk, le présentateur, Wetten, culture populaire allemande, qui est censé symboliser le mur entre les deux Corées. Et on revient sur quelque chose qu'a dit Étienne François hier aussi, en présentant justement ce pan de mur qui est exposé à Séoul. Dans l'image que moi j'ai de la séparation entre les deux Corées et de la DMZ, il n'y a pas de mur. Il y a des barbelés, il y a des mines, il y a des grillages, mais il n'y a pas de mur en béton. Et c'est intéressant aussi la façon dont on représente ce que veut dire le mur. Le mur, c'est devenu une métaphore pour une frontière dense, simplement, indépendamment de la matérialité de l'objet. Et puis le dernier point, c'est que cette chute du mur, elle est encore présentée en 2009 comme un événement populaire. La participation de la population, elle est importante. Ce sont les enfants des écoles qui ont peint les 1000 dominos du mur. Et puis vous avez, donc on a pris une star de la télé allemande, Thomas Gottschalk et sa crinière flamboyante, pour présenter cette exposition. Et là, on retombe un petit peu dans ce que disait Marx dans le 18 Brumaire. L'histoire se répète toujours deux fois, la première sous forme de tragédie, la seconde sous forme de farce. Et je pense qu'on est beaucoup plus dans la farce en 2009. Donc à partir de ces éléments, la reconstitution matérielle du mur, la question de la localisation et celle des publics, je vais aussi vous proposer plus ou moins trois parties, parce que j'ai été bien élevé, pour interroger la façon dont la mémorialisation du mur, la construction publique d'une mémoire, elle a une influence sur ce qu'on peut penser, enfin comment on peut penser l'histoire de Berlin et l'histoire de la RDA aujourd'hui. Donc le premier point, c'est cette évolution donc de la destruction du mur dont on a beaucoup parlé jusqu'au Mauer in den Köpfen, le mur dans les têtes, et ce que Nicolas Offenstadt appelle aujourd'hui un pays à l'horizontale. Je vous ai mis trois images pour commencer, qui sont trois images iconiques à mon sens du mur de Berlin. Quand vous pensez mur, ou si vous googlisez mur de Berlin, vous allez fortement tomber sur ces images. La première en haut à gauche, c'est Konrad Schumann, un soldat est-allemand qui fuit Berlin-Est le 15 août 1961 et qui saute par-dessus les barbelés de la Bernauerstrasse. C'est une image qui est devenue une image de propagande très importante dans la guerre froide. La seconde en haut à droite, c'est Checkpoint Charlie en 1961. Vous voyez des chars américains. Et puis la troisième en bas, c'est la porte de Brandebourg le 11 novembre 1989, prise du côté ouest. Alors pourquoi je vous montre ces trois lieux ? Ce sont trois endroits différents dans Berlin. Ce sont trois endroits qui aujourd'hui sont mis en réseau par le mémorial du mur pour former un mémorial global du mur par la Stiftung Berliner Mauer. Mais à part sur l'image de la porte de Brandebourg, moi je ne vois pas de mur sur les deux premières images. Je vois des barbelés, je vois des tanks, mais je ne vois pas un mur physique avec des parpaings comme on l'imagine et comme on le représente aujourd'hui. C'est le travail de la Stiftung Berliner Mauer. Donc pourquoi ces images incarnent le mur alors que le mur n'est pas présent dessus? Si je vous montre l'évolution aussi de ces lieux, elle est intéressante. Donc Checkpoint Charlie à ma gauche, en 1961 en haut, aujourd'hui en bas à gauche. Alors aujourd'hui, Checkpoint Charlie, c'est Disneyland. Donc vous avez un McDonald's, un KFC, cette image du soldat soviétique et du soldat américain, la petite guérite qui a été reconstruite, et le musée du mur qui n'est pas véritablement un musée. Si vous avez du temps à passer à Berlin, je ne vous le conseille pas. Et puis à ma droite, donc l'image de la porte de Brandebourg, le 11 novembre 1989, prise côté ouest, en haut. Et là, vous voyez effectivement cette disparition du mur, cette joie dont on a parlé hier, ces gens qui se saisissent du mur et il disparaît dans la foule. Et puis, la même image prise le lendemain depuis l'est. Et là, vous voyez que même si le mur a disparu très vite, il reste quand même cette colonne de soldats. Les gens sont sur le mur et on n'approche pas directement du mur encore côté est à ce moment-là. Ça va arriver très vite, on passe par les checkpoints, mais il y a encore le mur est vraiment présent encore. Alors, malgré tout, le slogan de 1989-90, c'est « Die Mauer muss weg », le mur doit disparaître. Et le mur a disparu extrêmement rapidement en raison d'une mobilisation populaire pour son démantèlement. Donc, il avait un caractère très négatif. Je vous ai remis petits éléments basiques sur le mur, 150 km autour de Berlin, etc. Il a été démantelé en un an. Alors, moi, je n'avais pas l'anecdote du gouvernement bavarois, mais effectivement, j'ai trouvé aussi que des entreprises ouest-allemandes se sont adressées au gouvernement Modrow très rapidement, dès novembre, pour dire au gouvernement est-allemand, si vous voulez, on vous rachète des éléments du mur, nous. Et c'est une demande qui a été acceptée par le gouvernement est-allemand en décembre pour faire entrer des devises, simplement. Mais ce qui vous marque aussi le fait que très rapidement, à l'Ouest, il y a une conscience de la valeur matérielle et patrimoniale de ce qui devient un artefact historique et qui n'était qu'un pan de béton jusqu'à ce moment-là, ou qui ne devenait plus d'ailleurs qu'un pan de béton. Malgré cela, vous avez une inquiétude très précoce à l'Est de certaines formations citoyennes autour de ce qui va advenir du mur en tant qu'objet physique. Et donc, le Runder Tisch de Berlin-Mitte, donc l'association qui réunit pour dialoguer sur la transition les représentants de l'État et des représentants des mouvements citoyens, le Deutsches Historisches Museum, qui est le grand musée d'histoire ouest-allemand, et le Museum für Deutsche Geschichte, qui est son pendant est-allemand, se réunissent et appuient la démarche qui avait été lancée par Manfred Fischer, qui est le pasteur de la paroisse de la Berner Straße, donc qui est aujourd'hui le mémorial du mur, qui avait préservé une section de mur. Et il demande à ce que cette section soit préservée et qu'elle ne soit pas détruite, ce qui est assez étonnant à ce moment-là. Donc c'est une demande qui date de janvier 1990. En avril 1990, ces mêmes acteurs ont demandé à ce qu'on préserve un autre pan de mur qui existe toujours, que vous pouvez aller voir, qui est le mur de la Niederkirchner Straße, qui est à côté de Checkpoint Charlie et de l'exposition Topographie d'Asterhorst, dont je parlerai tout à l'heure. Et finalement, le gouvernement est-allemand accède à cette demande, et le 2 octobre 1990, le dernier jour de l'existence de la RDA, le gouvernement est-allemand classe les ruines comme mémorial national. Voilà. Donc, l'essentiel du mur a quand même été rasé. En novembre 1990, il reste presque plus rien. Les principales sections qui demeurent sont celles que vous connaissez quand vous allez visiter Berlin aujourd'hui. Donc, je vous ai mis en haut de l'image la Easter Gallery, donc entre Warschauer Straße et Ostkreuz, dans l'état de 1990, la Niederkirchner Straße, la Berner Straße, et dès 1990, l'arrondissement de Kreuzberg, qui était un arrondissement frontalier, a proposé que, à la place du mur qui avait disparu, on maintienne cette trace. Donc c'est une double rangée de pavés dans le sol de Berlin qui matérialise le passage du mur en donnant les dates, donc 1961-1989. Alors la conclusion a priori de tout ça, ce serait de dire que Nicolas Offenstadt a raison et que véritablement, dans son histoire personnelle de la RDA, le fait, comme il le dit, d'avoir vu des statues qui ont été jetées à terre, des plaques qui ont été retirées, des plaques commémoratives qui ont été retirées des murs, de voir aujourd'hui sur les marchés opus de Berlin des étals sur lesquels vous pouvez acheter des petites médailles de Lénine, etc., ou des assiettes, de la vaisselle, tout ça c'est le signe d'un pays qui est à l'horizontale dans le sens d'une délégitimation aussi de l'histoire de la RDA qui a été jetée à bas de l'histoire. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Je n'en suis pas complètement sûr. Alors, Nicolas Offenstadt dit que c'est une histoire personnelle de la RDA, donc je vous livre mon histoire personnelle du mur de Berlin. Parce qu'il y a une impossibilité à penser Berlin aujourd'hui sans mur et sans la présence du mur. Et dans cette impossibilité, on a reconstruit le mur dans une forme de verticalité. Et donc là, c'est là que j'ai un problème avec la thèse du pays à l'horizontale. Et cette mémorialisation, à mon sens, elle est aussi problématique parce qu'elle contraint très fortement les recherches et la possibilité de porter certains discours sur l'histoire de la RDA aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ce mur est revenu dans un retour mémoriel, le mur contre-attaque ? Je vous reparlais de Star Wars tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs projets mémoriaux qui sont en concurrence en 1990, assez rapidement, et l'État fédéral et le Land de Berlin se décident en 1991 pour la Berner Straße, qui est donc entre Wedding, Prenzlauer Berg, dans le nord de Berlin, si vous n'y êtes pas encore allé, et pour que ça devienne le mémorial central du mur de Berlin. Donc c'est le lieu qui est reconnu officiellement par l'État et par la ville. Par conséquent, ça a permis quelque chose d'important qui a été de vendre les terrains de Checkpoint Charlie, qui appartenaient au Land de Berlin, qui ont été transférés à l'État, et l'État les a vendus pour faire un grand quartier tertiaire dans Berlin, qui aujourd'hui est très laid. Donc on a vendu Checkpoint Charlie, on a obligé les investisseurs privés qui ont acquis Checkpoint Charlie à organiser un espace d'exposition sur l'espace public, à organiser un mémorial du mur, et vous avez eu la création de ce fameux musée du mur, qui est un musée privé, sans muséographie particulièrement intéressante à Checkpoint Charlie. Le projet de marquage au sol que je vous avais montré précédemment, il a été étendu en 1993 parce que les Verts au Sénat de Berlin ont demandé à ce qu'on l'étende. Donc vous le voyez aujourd'hui devant la Niederkirchnerstrasse, devant la porte de Brandebourg, etc. Et puis on a mis en place une série de stèles, de 23 stèles qui racontent l'histoire du mur à travers Berlin, qui s'appelle donc Geschichtsmeile Berliner Mauer, qui est un parcours stratégique en fait dans l'histoire de l'Allemagne, qui est traduit en allemand et en quatre langues si vous avez encore du mal avec l'allemand. Donc le principal projet, ça a quand même été les Gedenkstätte Berliner Mauer de la Berner Straße. Ils sont construits entre 1991 et 2003-2005. Alors c'est l'image que vous voyez en haut à droite. Donc ce qui reste, alors il y a eu un concours d'architectes en 1994 qui a donné lieu à ce mémorial que vous voyez en bas, avec des morceaux de mur et puis des tiges en acier rouillé. La première pierre a été posée en 1997, le 9 novembre, parce qu'on ne fait que des dates symboliques. Le mémorial est ouvert le 13 août 1998, le centre d'information le 9 novembre 1999, et en 2003, on a rajouté la plateforme d'observation depuis laquelle est prise la photo que vous trouvez en haut. Pourquoi ce mémorial, il est intéressant? Parce qu'il contient trois périodes historiques en un seul endroit. La première, ce sont les deux murs de Berlin. Donc vous avez le Vorderlandmauer et Hinterland, donc le mur qui fait la frontière avec l'Ouest, qui est au premier plan, et puis le mur qui est sur territoire est-allemand, qui est au second plan. Berlin-Ouest est de votre côté, et Berlin-Est est à l'arrière-plan. Et puis vous avez quelque chose de plus contemporain, qui sont les deux murs en acier qu'on a rajoutés sur le côté, qui font une petite capsule, en fait, qui encapsule un moment d'histoire de Berlin et de l'Allemagne dans cet espace clos dans lequel vous ne pouvez pas pénétrer. Et une troisième strate historique, qui est le Mirador, qui est pas du tout original, mais qui a été reconstruit en 1997. Et donc là, on n'est pas dans du contemporain, on est dans de l'imitation de l'ancien. Donc on a trois moments pour reconstituer un site de valeur historique considérée comme essentielle. Malgré l'existence de ce mémorial, donc vous revoyez ici de la verticalité, avec ces tiges à travers lesquelles vous pouvez passer. Malgré l'existence de ce mémorial, les cérémonies de 2004, donc des 15 ans de la chute du mur, ont souligné les faiblesses de la politique mémorielle de la ville, notamment le fait qu'on avait les difficultés à trouver les restes du mur dans Berlin. La Niederkirchnerstrasse, quand vous allez à Berlin, je ne suis pas sûr que vous y passiez très très souvent. La Berlinerstrasse, c'est pareil, il faut monter. Et puis la concentration touristique du mur, elle se faisait à Checkpoint Charlie en 2004, essentiellement. Donc le Sénat de Berlin a mis en place un groupe de travail avec des historiens, Konrad Jarausch, Martin Sabro, Hans Hertle, qui ont participé pour élaborer ce qui s'appelle un Gesamtkonzept, donc un concept global de politique mémorielle autour du mur qui a été travaillé entre 2004 et 2006. Qu'est-ce que dit ce concept? Il dit, premier point, qu'il faut préserver ce qui reste sans reconstruire et qu'on ne doit pas faire du mur de Berlin une sorte de décor à la Hollywood. Ça, c'est assez clair. Qu'il faut mettre en avant ensuite la dimension dictatoriale du régime et les victimes du mur à travers cette mémorialisation. Et donc, pour cela, qu'on va en plus relier le mémorial du mur à d'autres mémoriaux, notamment ceux de la Stasi, et en particulier la prison de la Stasi à Hohenschönhausen, ce qui est une forme de produire un discours historique sur la RDA qui est orienté, très orienté années 90 pour moi, qui est intéressante, hein, mais qui dit quelque chose. Et puis, il faut plus qu'une simple trace au sol, ça n'a pas énormément plu aux historiens allemands, même si je vous rappelle que c'est la solution qui a été retenue pour matérialiser le ghetto de Varsovie à Varsovie, par exemple. Vous avez le même système de double pavé dans le sol, dans le centre-ville de Varsovie. Et puis, il faut prendre en compte la demande des touristes étrangers et allemands dans la réflexion qu'on a sur ce qu'on fait du mur. Donc, en 2008, finalement, on a créé une fondation pour gérer ces différents mémoriaux qui met en réseau tout ça. Alors, de quoi le mur de Berlin est-il le nom, finalement, aujourd'hui? Il est d'abord, sa préservation, elle est aussi fortement le fait d'une demande touristique, des touristes eux-mêmes et des entreprises, des tour opérateurs. Donc la mémorialisation, elle ne se fait plus uniquement pour les Berlinois, mais elle se fait aussi beaucoup pour des Allemands, mais surtout pour des étrangers, en fait. Et parce que le mur de Berlin, enfin, on vient chercher à Berlin quelque chose de l'histoire de l'Europe, et quelque chose de l'histoire du monde dans la guerre froide, et c'est le sens du discours d'Angela Merkel en 2009 au moment des commémorations des 20 ans. Donc l'histoire de Berlin, du mur de Berlin, elle dépasse aujourd'hui assez largement la ville, et elle est plutôt mise en lien, plutôt qu'avec le mur de Berlin, avec le rideau de fer. Et ça, c'est l'image que je vous ai mise en haut à droite. C'est le premier mémorial du mur inauguré en dehors de l'Allemagne. Donc c'est un mémorial qui a été inauguré le 9 novembre 1990 à Fulton, dans le Missouri. Alors pourquoi Fulton dans le Missouri ? Parce que c'est là qu'en 1946, Churchill a tenu son discours sur « Un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe ». Et ce mémorial, il le fait d'Edwina Sandys, qui est la petite-fille de Churchill. Donc il a été inauguré en présence de Ronald Reagan, etc. Et finalement, c'est assez ironique, moi je trouve, que on pose un morceau du mur de Berlin, qui a été quand même construit en 1961, pour commémorer un discours de 1946. En tant qu'historien, j'ai un petit peu des problèmes avec la chronologie, du coup. Mais ça dit quelque chose sur l'assimilation mur de Berlin, rideau de fer aussi, quelque part. Voilà. Aujourd'hui, vous avez près de 140 monuments qui reprennent des pans du mur de Berlin dans 40 pays du monde. Celui-ci, donc, c'est le premier inauguré. Alors, face à cette demande mémorielle forte, qu'est-ce que vous faites quand les touristes veulent du mur ? Il a bien fallu reconstruire du mur quelque part et entretenir le mur. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis aussi une image de la Issa Gallery qui a été restaurée. Alors, après avoir été peinte en 1990, les touristes peuvent pas s'empêcher d'aller gratter leur petit bout de mur ou d'écrire « je suis passé ici », ce qui est assez navrant. Donc il a bien fallu le remettre en état. Donc elle a été restaurée en 2009 et puis une deuxième fois en 2015-2016. Et vous voyez là une image de la restauration de la fresque qui est l'une des plus célèbres sur le baiser entre Brezhnev et Honecker. Voilà, donc là c'est la Issa Gallery et vous voyez des photos aussi où vous avez des ouvriers qui reprojettent du béton sur le mur. Du coup, ça pose une question aux historiens et notamment à notre vision occidentale de ce qu'est le patrimoine, dans la mesure où le patrimoine, c'est censé être de l'original et du vrai. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le mur de Berlin aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va voir quand on va voir le mur de Berlin aujourd'hui ? Est-ce qu'on va voir le mur, avec un grand M, ou est-ce qu'on va voir un mur qui est à Berlin et qui est au même endroit que le mur, etc. Et est-ce que ça a même une importance qu'il soit reconstruit ou pas ? Aujourd'hui, oui, c'est mon deuxième moment Star Wars, vous avez dans cette idée de reconstruire le mur dans les commémorations des 30 ans. Cette année, vous avez une installation cette semaine dans l'Ashpré, juste derrière la Issa Gallery, où un artiste allemand a mis, je vous l'expliquer simplement parce que j'ai pas trouvé de photos sur Internet, des sabres laser dans l'eau, qui sont donc des tiges lumineuses qui matérialisent aussi la présence de la frontière dans l'Ashpré, puisque la Issa Gallery est un mur arrière. Cette politique mémorielle, elle a quand même associé de plus en plus les historiens et elle s'est diffusée, notamment, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que 10 ans après le concept global de 2004 du Land de Berlin, on s'est mis à dire que tiens, ce serait peut-être bien aussi de faire des mémoriaux du mur autour de Berlin-Ouest, puisque le mur ne fait pas que diviser Berlin du nord au sud, mais qui l'entoure Berlin, et qu'en fait c'est un encerclement et un enfermement des Berlinois de l'Ouest, l'enfermement des Allemands de l'Est étant réel, étant la conséquence de la construction du mur, mais en termes de mobilité géographique micro, à l'échelle de la ville, le mur il fait le tour de Berlin-Ouest, et vous pouvez passer par contre de Berlin-Est au Brandebourg, même s'il y a des restrictions et des interdictions d'aller à Berlin pour certaines personnes, etc. En tout cas, en 2014, le ZZF, donc le Zentrum für Zeit- und Sozialforschung de Potsdam, qui est l'un des plus grands centres de réflexion historique sur l'histoire de la RDA depuis les années 2000, a été chargé par une association de réfléchir à un projet de mémorial de mur qui se fasse dans le Brandebourg et à Potsdam, sur un lieu qui est aujourd'hui une promenade touristique très cotée entre le Gliniker Brücke et le Schloss Cecilienhof à Potsdam. Donc c'est l'image en haut à droite, donc vous avez Berlin et Potsdam et puis les lacs entre Berlin et Potsdam, et donc les petits points, ça signe ce parcours mémoriel qui a été construit. Alors pourquoi cet endroit-là ? C'est un projet qui s'appelle Grenze Potsdam parce que c'était l'un des points de passage fluviaux les plus importants entre Berlin-Ouest et le Brandebourg. Donc il ne faut pas oublier cette frontière aussi que marque le mur de Berlin. En 2011, à cet endroit, a été retiré le dernier pan de mur qui était encore présent. Mais les historiens se sont appuyés sur des artefacts matériels qui restent, notamment des plaques de béton, des colonnes sur lesquelles on accrochait les barbelés, des hangars dans lesquels étaient logés les soldats, un mirador et puis un ponton qui est tout en haut là où le lac se réduit et qui empêchait la circulation fluviale entre l'est et l'ouest de l'Allemagne. Voilà. Donc cette exposition, elle s'est associée à d'autres mémoriaux qui ont été inaugurés. Notamment, vous le voyez donc en bas à gauche, derrière moi, ça c'est deux pans de mur qui ont été restaurés entre Großglienicke et Spandau. C'est aussi entre donc Berlin-Ouest et un peu plus au nord et le Brandebourg. Et puis vous voyez cette fois cette volonté de montrer le mur en diachronie puisque vous avez des petites photos qui montrent les différentes les évolutions historiques du mur à cet endroit-là. Et à ma droite, une autre installation qui s'appelle un Mauerradweg, donc une piste cyclable le long du mur, à Spandau, qui a été inaugurée en novembre 2016 et qui, elle, restitue alors à nouveau en verticalité le mur, mais en plus restitue en perspective. Vous voyez la ligne bleue, en fait, c'est l'image du mur. Et sur les stèles, vous avez une description de la vie quotidienne dans la zone frontalière, ce qui est l'objectif aussi de tout le projet Grenze Potsdam, d'expliquer comment un territoire frontalier a perdu son identité frontalière et comment ça s'est passé. Donc le dernier point, c'est de savoir quels sont les enjeux historiographiques et du coup les limites posées au discours historique de toute cette mémorialisation. D'abord, le discours de la Stiftung Berliner Mauer, qui est associé à la Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Tout est dit dans le titre. Alors oui, la RDA est une dictature, hein, bien évidemment. Mais ce dont parle la Stiftung Berliner Mauer et ce dont parle le Gesamtkonzept du Sénat de Berlin, c'est de Mauer-Régime, pour désigner la RDA. Donc le régime du mur, ce qui est réducteur parce que selon moi, ça ne prend pas en considération la période 49-61 déjà. Et c'est aussi quelque chose, une expression que réutilise Angela Merkel dans son discours de 2009 et de 2014. Et puis, le concept de 2004, par exemple, dit que l'objectif, c'est de, je cite, « rendre visible l'écart entre la population et l'État ». Donc oui, il y a un écart, bien évidemment, entre la population et l'État. Mais c'est ce que disait Elisa Goudin aussi, il y a une majorité des Allemands de l'Est pour lesquels le mur est là. Bon, c'est une réalité, il faut faire avec. Et de toute façon, on ne peut pas penser toute sa vie uniquement en fonction du mur. On ne sait pas quand il va tomber, il faut bien construire une existence dans ce régime-là. Et par ailleurs, tout le monde ne vit pas à Berlin. Alors pourquoi on utilise ce discours-là? Je voudrais reprendre quelque chose qu'a dit Emmanuel Droit à la radio en début de semaine, puisqu'il y a plein d'historiens qui sont interviewés sur cette question du mur. Il disait, c'est parce que l'objectif de ce discours, c'est de former des citoyens à travers l'histoire de l'Allemagne. C'est-à-dire de rappeler justement tout ce qu'on a dit, c'est la façon dont un mouvement populaire peut renverser les choix politiques et peut s'imposer à l'État. Et ça, c'est un discours sur le pouvoir du peuple qui est très important pour l'Allemagne depuis 1945 et depuis la chute du nazisme. Donc ça sert le discours historique allemand, qui est un discours intéressant et utile. Autre élément important, ce sont des lieux qui sont aujourd'hui ces lieux mémoriels ambigus pour certains. Je vous ai mis deux images. En haut à droite, vous avez donc la section de mur de la Niederkirchnerstraße. Donc on est à côté de Checkpoint Charlie, du ministère des Finances aujourd'hui. Et vous voyez deux stèles, la première qui est en biais grise, ça explique ici se dressait le mur de Berlin 1961-1989, etc. Et juste à côté, vous avez topographie des Terrors. Parce que juste derrière le mur, vous aviez, alors le mur est construit après, c'est pas sa faute, l'ancien siège de la Gestapo, avec des caves dans lesquelles on a torturé. Donc vous pouvez aujourd'hui, il y a une exposition très intéressante, historique, visiter ces terrains-là et avoir l'histoire du nazisme. Et cette photo, elle vous montre tout de suite la juxtaposition des deux dictatures, qui est un grand débat historiographique en Allemagne, qui, à mon sens, a quand même été tranché avec la querelle des historiens. Mais est-ce qu'on peut comparer ou pas? Et alors là, il n'est même pas question de comparer, les deux sont là au même endroit. Et c'est l'histoire de l'Allemagne, c'est tout. Après, on peut porter un discours historique. Et comme vous le voyez, ce discours historique sur le mur de Berlin, il est limité à une petite stèle et il n'y a pas d'autre explication, alors que topographie des Terrors, c'est beaucoup plus développé. Et le deuxième, c'est une section de mur originale aussi, qui traverse aujourd'hui le bâtiment Marie-Elisabeth Ludershaus du Bundestag, enfin du Reichstagsgebäude, donc qui a été gardé quand le Reichstagsgebäude s'est réinstallé à Berlin. Antoine nous en parlera. Donc il y avait un bout de mur à cet endroit-là, on l'a gardé et un artiste a peint les éléments du mur pour indiquer le nombre de morts chaque année, donc en tentant de traverser le mur. C'est une œuvre importante. Et là, vous voyez à quel point l'histoire peut aussi être captée, enfin, imbriquée avec le politique, et de fait captée par le politique. Ce qui aussi, il y a des grands débats en France sur les lois mémorielles. Là, on n'est pas dans une loi mémorielle, mais on est dans une intrication géographique des dimensions politiques et historiques. Et juste pour finir, le dernier point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, cette concentration, cette focalisation qu'on a sur le mur, alors je suis désolé, cérémonie 30 ans de la chute du mur, je sais que c'était la commande, mais je pense que se focaliser sur le mur, ça fait écran à une histoire plus sociale et plus actuelle de la RDA, dont Elisa Goudin a beaucoup parlé. Parce que la majorité des films qu'on voit aujourd'hui sur la RDA, c'est toujours des gens qui essayent de passer le mur, qui essayent de fuir. C'est une réalité, c'est important, mais c'est plus difficile de montrer ce qu'était la vie quotidienne en RDA dans un film, et probablement moins intéressant ou moins filmique. Donc comment est-ce que deux générations, trois générations ont réussi à composer avec le régime, à y développer leur vie? Est-ce qu'on peut faire une histoire? Enfin, on fait aujourd'hui, c'est ça qui est très riche, une histoire du quotidien, du social en RDA. Il y a une richesse des archives sur le sujet et je pense qu'il faut peut-être regarder le mur pour ensuite lui tourner le dos et ouvrir le regard aussi vers l'Est et vers les rapports entre la RDA et ses voisins et partenaires socialistes. Parce que là, il y a des choses intéressantes à dire sur la construction d'une vie en socialiste, d'une vie dans un système qui se veut un système alternatif, internationaliste, censé abolir les frontières alors qu'elles sont restées très fortes et qu'il y avait une détestation forte entre les pays de l'Est, et donc s'ouvrir un petit peu à une nouvelle forme qui tourne le dos relation Allemagne-Allemagne.